Soft Power, Frédéric Martel. This is why I'm hot, hot. This is why
I'm hot, hot. Bienvenue dans Soft Power, le magazine des industries culturelles et du numérique de France Culture, jusqu'à 20h30. Dans l'économie de la culture et du numérique, un nouvel outil, si on peut dire, se développe depuis quelques années, le financement participatif ou crowdfunding, le financement en gros par la foule, la masse ou crowd. En gros, il s'agit de faire financer, par exemple, un projet culturel par un grand nombre de personnes. Autrement dit, vous lancez en ligne un appel pour financer votre film, votre œuvre d'art ou votre association et vous demandez à un grand nombre de personnes de payer de petites sommes, soit sous la forme de dons, on le verra, ou alors sous la forme de prêts. Ces nouvelles sources de financement, en quelque sorte ces nouveaux types de banques, illustrent un phénomène très complexe et des modes de financement très variés. C'est de cela que nous allons parler, ainsi que de l'évolution et du futur des financements participatifs ce soir dans Soft Power avec nos deux invités. Christophe Nagel, directeur de Kickstarter Europe. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Merci d'être venu pour participer à cette émission de Bruxelles.
Bonne invitation.
Et Adrien Aumont, cofondateur de KissKiss Bank Bank.
Bonsoir à tous.
Vous êtes venu du 10e arrondissement de Paris. C'est plus facile.
Un peu plus loin.
Ouais. Vous aviez une valise d'ailleurs.
Exactement.
Vous avez failli ne pas rentrer dans la maison de la radio.
Je viens tout droit de la campagne.
Avec vous deux, nous explorerons le fonctionnement du financement participatif donc et nous essaierons d'analyser les évolutions de ce crowdfunding et ses perspectives d'avenir. Et nous serons également avec Gilles Fontaine de Challenge. Bonsoir Gilles.
Bonsoir Frédéric.
Ainsi que Zoé Sfez de France Culture. Bonsoir Zoé.
Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous.
Toujours au sommaire de cette émission, dans un instant, on parle de la reprise en main des médias démocratiques dans la Pologne autoritaire. Nous étions à Varsovie il y a quelques jours, reportage sur place. 20h10, le club de la presse numérique, nous parlerons ce soir de l'intelligence artificielle au moment même où Google tente de moraliser le secteur avec quelques difficultés, comme on le verra. Et nous serons pour en débattre avec Gilles Fontaine, qui restera jusqu'à la fin de cette émission de Challenge, et l'ancien ministre Christian Paul. Voilà pour le sommaire de ce magazine Soft Power ce soir. Cette émission est réalisée par Véronique Villa et elle est exceptionnellement enregistrée. En régie, Clément Daté. Soft Power, c'est aussi sur les réseaux sociaux au mot-clé Soft Power. Et en podcast chaque semaine, vous pouvez vous y abonner sur le site de France Culture, sur iTunes et sur l'application podcast de votre smartphone. Soft Power sur France Culture jusqu'à 20h30. À Varsovie, les journalistes et les intellectuels sont inquiets. Les médias polonais sont peu à peu muselés par le pouvoir en place, autoritaire et ultra-conservateur. Si la censure qui se met en place n'est pas aussi forte qu'en Hongrie, par exemple, qui est un autre modèle de contrôle des médias, elle commence à avoir des effets redoutable à la veille des élections européennes. C'est une censure parfois brutale qui atteint d'abord les médias audiovisuels et sous d'autres formes plus subtiles, les journaux en papier et aussi les sites web. Reportage pour France Culture à Varsovie où nous étions il y a quelques jours.
No dobra, czyli coś będzie brakowało, na pewno. To nie zapłacone, tak? Mały flat, tak?
Ici, nous sommes dans le café d'un très grand bâtiment. À Varsovie, il y a le principal journal du pays, Gazeta Wyborcza, avec notamment une radio, une télévision, des sites web, une sorte de ruche où les gens s'activent.
My name is Łukasz Pawłowski. I'm a journalist and managing editor of.
Je m'appelle Łukasz Pawłowski. Je suis journaliste et rédacteur en chef d'un hebdomadaire en ligne, Cultura Liberal, basé à Varsovie.
It is an online magazine that is available to.
Ce magazine est accessible gratuitement et représente pour moi la manière dont la scène médiatique polonaise a évolué ces deux dernières années.
Comment est-ce que cette scène médiatique s'est transformée justement ici à Varsovie, en Pologne?
Je pense que la scène médiatique polonaise est divisée et qu'on peut la voir de deux manières distinctes. D'abord, il y a la division entre les médias publics et les médias privés. C'est très visible depuis 2015, quand le gouvernement actuel est arrivé au pouvoir et que les médias publics sont devenus extrêmement biaisés. Car ici, en Pologne, les médias publics sont financés directement par le gouvernement. Cela fait de nombreuses années que ces médias sont accusés d'être biaisés, mais aujourd'hui, nous changeons véritablement d'échelle. Même les personnes qui y travaillent avouent présenter les faits avec un prisme favorable au gouvernement. Mais pour eux, c'est un signe de pluralisme des médias. Car si les médias publics sont pro ou plus favorables au gouvernement, les médias privés sont définis comme étant les médias de l'opposition. Bien entendu, cette idée de balancier est intenable puisque les médias publics sont financés par toute la population.
C'est une propagande très crue, les médias et notamment la télévision publique ici.
Yes, I would say that that's definitely true, and that is actually admitted even by.
Oui, je pense que c'est vrai, et c'est même admis par les journalistes et les commentateurs politiques. Soit qu'ils soient proches du gouvernement actuel ou du parti, soit qu'ils se définissent eux-mêmes comme ultra-conservateurs. Et ce n'est pas tant le fait qu'ils soient présents à la radio ou à la télévision publique comme ultra-conservateurs qui pose problème. Mais surtout le fait qu'ils suivent toujours la ligne du gouvernement. Et bien souvent, comme vous l'avez dit, c'est très brut, voire brutal.
Face à ça, il y a des télévisions privées, notamment TVN et TVN 24, la chaîne d'information continue. Là, on est dans un groupe privé qui est d'ailleurs aujourd'hui adossé à des groupes américains. Et donc, c'est une forme de protection.
Des rumeurs ont fait état du fait que le gouvernement souhaitait non pas nationaliser mais poloniser les médias, c'est-à-dire les racheter via des capitaux polonais. Les chaînes de télévision que vous avez citées étaient les cibles principales. Cependant, à un certain moment, durant ces trois dernières années, elles ont été achetées par le groupe américain Discovery, et le plan qui était de poloniser les chaînes a été abandonné. Je pense que c'était après l'intervention de l'ambassadeur américain en Pologne qui a fait savoir que l'on ne pouvait pas jouer comme ça avec des investissements et des entreprises américaines.
Ici, nous sommes dans un restaurant de Varsovie et j'attends Jarosław Kurski, qui est le rédacteur en chef de Gazeta Wyborcza, le principal quotidien polonais. Il a été longtemps l'assistant d'Adam Michnik, le collaborateur et porte-parole de Lech Walesa. Il a d'ailleurs écrit un ouvrage sur Lech Walesa. Et Jarosław Kurski dirige désormais ce journal, symbole de la révolution polonaise et aujourd'hui de l'opposition à Kaczyński, la figure centrale d'extrême droite, ou en tout cas de droite extrême, qui gouverne la Pologne.
Je m'appelle Jarosław Kurski, je suis rédacteur en chef de Gazeta Wyborcza, adjoint de Adam Michnik, fameuse militant de la période anticommuniste, un des héros national polonais. Nous représentons toutes les valeurs que ce gouvernement déteste. Grâce à ça, nous attachons un grand attachement de lecteurs qui nous abonnent. Aujourd'hui, nous avons 180 000 abonnements numériques, qui est vraiment exceptionnel dans cette partie de l'Europe. Ça représente les chiffres plus ou moins la même que le monde chez vous. Et nous avons aussi un tirage plus ou moins 100 000 exemplaires de papier.
Est-ce que le gouvernement et au fond aussi les hommes politiques qui le nourrissent, je pense bien sûr à Kaczyński, même s'il est député, c'est un peu ce gouvernement-là. Est-ce que le gouvernement a essayé, et sous quelle forme, de faire des pressions pour vous nuire?
Ils ont commencé. Je vais utiliser une métaphore. Mettre la sac de plastique à nos têtes pour nous étouffer. Dès le début, ils ont supprimé de la pub et les annonces du gouvernement. Ils ont supprimé l'abonnement des administrations publiques. Et ils ont compliqué beaucoup notre distribution des gazettes, par exemple à la chaîne de pétrole qui est contrôlée par l'État, Orlen et Lotos. Et nous sommes aujourd'hui des témoins de grands offensifs juridiques contre Gazeta parce qu'il y a plus de trentaine plaintes.
Ça veut dire qu'ils vous font des procès ? Il y a une trentaine de procès en cours ?
Les procès dans les cadres pénal et civil en même temps. C'est pour la première fois que le gouvernement et les partis qui gouvernent accusent de la libre média de faire, par exemple, commentaires sous-titrés de l'état de mafia de Kaczynski.
Est-ce que dans ces abonnements très nombreux, vous avez dit 180 000 abonnements numériques, est-ce que les gens s'abonnent pour des raisons civiques ? C'est ce que vous sembliez dire, c'est-à-dire au fond, c'est pas juste acheter un journal, mais c'est aussi lutter contre la censure, lutter contre ce pouvoir d'extrême droite, ou en tout cas de droite très conservatrice, qui aujourd'hui anime ce pays.
Mais malgré cet étouffement économique, nous sommes très satisfaits d'avoir établir des liaisons spéciales avec notre lecteur qui sont tellement attachés des raisons civiques qu'on vous vient de mentionner. Parce que on reçoit beaucoup de lettres, d'emails en disant « on croise les doigts pour vous, je n'imagine pas de la Pologne sans vous, il faut que vous soyez comme une barricade qui défend des valeurs démocratiques ». En fait, depuis 6 mois, on a eu beaucoup d'histoires, beaucoup des affaires qui montaient, les affaires des pots de vin dans ce gouvernement et aussi dans les banques centrales. Et ça fait une vague de la discussion sur l'état des pays aujourd'hui.
Des élections européennes arrivent, qui d'ailleurs vont précéder d'autres élections ici en Pologne. Qu'est-ce qui peut se passer au niveau des élections européennes, selon vous ?
Il faut dire qu'il y a 3 élections qui sont enchaînées, jalonnées d'abord par l'élection européenne, après parlementaire, et à mi-2020, il y a présidentielle. J'espère que l'opposition démocratique réunie dans les camps de démocratique européenne va gagner, mais on verra.
Gazeta Wyborcza, pour un Français, c'est le grand journal d'Adam Michnik, mais aussi le grand journal de la révolution polonaise de 1989, donc de la liberté, de la démocratie, d'une idée européenne avant même l'Europe pour la Pologne. Ça peut être quoi aujourd'hui, longtemps après finalement 1989 ?
Nous sommes encore jeunes pour la 12e fois parce que nous sommes vraiment un fruit de la révolution des valeurs de 1989. Le grand de pourparler à la table ronde entre communistes et les camps de Solidarność. On appelait des débuts pour les valeurs démocratiques. Gazeta Wyborcza, ça signifie les gazettes d'élection. Et on a retenu ce titre jusqu'au présent. Et aujourd'hui, je crois que ce titre Gazeta Wyborcza, Gazeta des élections, est important parce qu'il faut répéter le même effort pour établir les ordres démocratiques en Pologne. Et nous avons aujourd'hui 30e anniversaire, 10 mai. On espère que cette valeur sera bien montrée et le rôle de Gazeta Wyborcza sera encore si important qu'on c'était auparavant.
Voilà, Gazeta Wyborcza qui fête ses 30 ans dans quelques jours. Nous étions à Varsovie avec Jarosław Kurski, directeur de Gazeta Wyborcza, et juste avant, Lukasz Palowski, journaliste à Politica Critica, l'un des principaux sites d'opposition. Poloniser les médias, un reportage à Varsovie pour France Culture. Merci pour la traduction à Benoît Bouscarel.
type. Might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh.
La chanteuse américaine Billie Eilish, dont le dernier album sorti le 29 mars est très prisé par les jeunes notamment. Il faut dire qu'elle a 17 ans, ce qui est quand même précoce pour une chanteuse pop qui a déjà une belle petite carrière derrière elle.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
Ce soir, on parle de financement participatif ou encore crowdfunding. Le mot est un peu complexe. Parfois, en anglais, ça signifie tout simplement le financement par la foule, la masse. Crowd, en anglais, en gros, il s'agit de faire financer un projet, quel qu'il soit d'ailleurs, par plusieurs personnes, souvent un grand nombre de personnes. Et nous sommes pour parler de ce sujet avec Christophe Nagel, directeur de Kickstarter Europe, Adrien Aumont, cofondateur de KissKissBankBank, et à mes côtés, Gilles Fontaine de Challenge et Zoé Sfès de France Culture. On va peut-être commencer par, avant de parler de vos deux entreprises, un petit peu au moment, je dirais, séparément, singulièrement, par quelques généralités sur ce secteur, l'un et l'autre. Comment vous définiriez le crowdfunding, ce qui n'est peut-être pas connu de tous nos auditeurs? On commence avec vous, Christophe Nagel.
Écoutez, la définition que nous, on en donne, en tout cas, c'est le fait de pouvoir aider les artistes, les créatifs à trouver les ressources et le soutien dont ils ont besoin pour donner vie à leurs idées. Sur Kickstarter, on va parler généralement de projets créatifs. C'est vraiment ça qui est à la base. On va traiter sans doute d'autres thèmes, mais sur notre plateforme, c'est vraiment le projet créatif,
la culture et l'art.
La culture, l'art, qui sont, on va dire, au centre de nos préoccupations, ce qui n'est pas forcément la réputation. Donc souvent, on doit un petit peu remettre les choses dans leur contexte.
Vous fêtez votre anniversaire, 10 ans, en avril.
Oui, je ne suis pas le seul. Absolument, ouais, 28 avril.
Avril 2019, donc ça fait 10 ans, ça a été créé à Brooklyn, c'est ça?
Tout à fait, ouais.
On reviendra sur Kickstarter en particulier. De votre côté, Adrien Aumont, KissKissBankBank, comment vous définiriez ce secteur, puisque vous avez une vision plus large du crowdfunding, c'est-à-dire donc des financements participatifs?
Alors écoutez, la définition que vient de donner Christophe est une définition à laquelle on adhère évidemment, mais chez KissKissBankBank & Co, nous avons plusieurs plateformes de financement participatif. Donc nous avons KissKissBankBank, qui est la plateforme la plus connue, qui travaille...
Classique, traditionnelle,
sur un modèle de don en échange de contrepartie, ou de don sans contrepartie, et qui s'adresse finalement au secteur de la création, de l'innovation, de la solidarité.
À but non lucratif,
et on est concurrent direct Kickstarter et KissKissBankBank. Et puis nous avons créé une deuxième plateforme qui s'appelle Lendopolis, et sur Lendopolis vous pouvez prêter votre argent directement à des petites entreprises, des entreprises de taille moyenne, des promoteurs d'énergie renouvelable, des promoteurs immobiliers, et là d'une certaine manière votre argent vous est remboursé avec des taux d'intérêt, donc ça ressemble finalement à beaucoup plus à la banque traditionnelle, et nous avons une autre plateforme qui s'appelle Goodid, qui fait du don gratuit. Il vous suffit de regarder une publicité, l'argent de la publicité est reversé directement à l'ONG, l'association ou à la fondation. Donc nous avons ces trois plateformes chez nous, et ce qui fait que notre définition du financement participatif va plus dans l'idée d'une finance directe, comme on pourrait parler d'une démocratie directe ou d'une démocratie participative. C'est l'idée qu'on puisse caler des tuyaux entre tous les Français pour qu'on puisse passer son argent d'une poche à une autre le plus facilement du monde, pour que les Français puissent réinjecter leur argent dans l'économie réelle, et tout en finançant ces projets, pouvoir dire: nous voulons que ce projet existe. Et donc il y a une
nous allons lui donner vie.
On va lui donner vie et du coup c'est un plébiscite.
Et des moyens donc, puisque c'est aussi une question d'argent.
Exactement.
Alors quand on prend les définitions et les exemples déjà que vous avez donnés, il y a des financements participatifs via les dons, via le prêt. On va voir aussi, il y a du, on peut le faire en capital, donc une banque assez classique. Ça c'est une distinction par, je dirais, le statut un peu de ces entreprises. Il y a des entreprises internationales et d'autres qui ont une vocation plus nationale. Comment vous situez l'un et l'autre à ce sujet, Kickstarter?
Kickstarter donc
est international.
Est international. C'est une plateforme qui est effectivement, comme vous l'avez dit, née à Brooklyn. L'argent public aux États-Unis pour les projets créatifs, c'est pas quelque chose qui existe. Donc c'est pas forcément venu ou en tout cas apparu de, juste par un effet. Bah ça serait cool de lancer ça. Non, c'est
si nécessité. On veut,
c'est une nécessité, nécessité qui, ouais. Qui en tout cas à l'époque a été était claire au vu de Perry Chen, Yann C. Strickler et Charles Adler qui sont les trois
fondateurs.
Les trois fondateurs de, qui sont d'ailleurs artistes, journalistes musicaux et graphistes. Voilà, comme ça pour donner un petit peu l'état d'esprit dans lequel on s'inscrit. Donc nous, on est une plateforme qui est ouverte pour les créateurs dans 22 pays. Quand on dit pour les créateurs, c'est parce qu'il y a effectivement le fait de pouvoir lancer un projet sur la plateforme d'un côté, et puis de l'autre côté, il y a les contributeurs, et ceux-là,
où qu'ils soient, ils peuvent
effectivement,
monde,
absolument, ouais. Il suffit malheureusement
d'une
toujours
connexion
d'avoir,
internet,
d'avoir une connexion internet, d'avoir un compte en banque, et de pouvoir faciliter cette, on va dire.
Alors, il y a d'autres structures de type Patreon, relativement connues, sur un modèle un peu différent, où là, vous, notamment, vous pouvez, par exemple, il y a d'autres solutions, fournir, financer un artiste que vous aimez par un petit prélèvement. Par exemple, chaque mois, vous lui donnez 2 euros, vous avez un portefeuille d'une cinquantaine d'euros ou plus, vous allez le répartir entre quelques artistes chaque mois. Oui. Il y a d'autres entreprises, je dirais, de plateformes internationales de type Indiegogo, toujours américain, Tipeee, GoFundMe. Et puis, il y a des structures plus nationales. Et là, c'est là où KissKissBankBank se situe, même si vous n'êtes pas que strictement français, malgré tout, c'est une entreprise française, où il y a d'autres acteurs dans ces marchés, je dirais, nationaux à ce moment-là.
Écoutez, en effet, Kickstarter et Indiegogo sont les deux plus grosses plateformes américaines et pionniers de ce marché-là. Et après, on fête nos 10 ans, nous aussi, donc on est arrivé à peu près au même moment. Hein, les bonnes idées sont dans l'air et aujourd'hui, vous avez dans chaque pays des acteurs nationaux, domestiques. En France, vous avez deux acteurs forts et historiques qui sont KissKissBankBank et Ulule. Et c'est d'ailleurs une particularité ou une anomalie, c'est que la France, ces deux plateformes ont un leadership incontesté et qui déborde d'ailleurs de la France. On a, nous, un leadership en Belgique. Ulule a des belles opérations dans d'autres pays européens. J'ai pas envie de dire que c'est une anomalie parce que c'est une fierté pour nous d'avoir réussi finalement à montrer que la France était forte sur ce secteur d'activité et puis de garder notre marché domestique comme on sait le faire encore aujourd'hui.
Votre anniversaire à tous les deux, c'est 10 ans, vous venez de le dire. Question pour conclure dans cette introduction, ça veut dire que c'est vraiment un phénomène récent, relativement récent, 10 ans. Et pourquoi ça naît, grosso modo, il y a une dizaine d'années?
Alors écoutez, c'est une accumulation de signaux faibles. Comme toute innovation est un peu pionnière. Nous, ça a été le peer-to-peer. Dans la musique, c'est-à-dire qu'en gros on est né finalement, on a commencé dans la musique et on est en 2007 et en 2007 les contrats d'artistes sont rendus par les maisons de disques, l'industrie du disque en France décroche en 3 ans d'à peu près la moitié de son volume d'affaires et donc c'est une zone de tourmente assez forte. Et pour autant, les gens n'ont jamais autant aimé la musique à cette époque-là, puisque en fait, on assiste aussi à la fin de MySpace, qui est le premier réseau social au monde, qui nous a montré qu'on était capable de créer une relation forte, et surtout une relation en circuit court, entre des fans de musique et les musiciens. Et à ce moment-là, il y a Facebook qui arrive. Et Facebook devient un réseau social généraliste qui se met à nous aider à organiser toute notre vie sociale. Et nous, à ce moment-là, on découvre finalement que les gens ont finalement plus beaucoup de pudeur et qui sont capables de partager des photos de leurs enfants, de leur famille, de leurs vacances. Et on se dit, s'ils sont capables de partager des choses aussi intimes, ils sont peut-être prêts pour partager aussi de l'argent. Et donc, tout part de là. Et on se dit, on va régler ce problème dans la musique en permettant à ces artistes de se financer avec leurs fans. Et puis, on sait à ce moment-là qu'on va ouvrir dans le cinéma, dans le spectacle vivant et dans toutes les industries culturelles. Et Kickstarter arrive à ce moment-là.
Christophe, ouais. Nagel en français, Nagel, voilà. Sur cette même question.
C'est marrant parce que la musique joue un rôle assez central dans la naissance de Kickstarter aussi. Je peux plus répondre à la question par rapport à l'endroit, comme j'en ai déjà parlé. Donc on se trouve dans le contexte des États-Unis, notamment à New York. Perry Chen veut monter un concert, il veut pour les connaisseurs, invité Kruder et Dorfmeister, qui je pense sont toujours actifs. Et s'est dit, mais en fait, voilà, ça va me coûter 20 000 $ pour effectivement lancer le concert. Pourquoi est-ce que je vais de toute façon pas moi-même prendre le risque? Il y a cette notion de risque, on va en reparler, etc., qui est assez importante. Pourquoi est-ce que j'ai pas un moyen de la mettre sur une plateforme, de voir si ça plaît autour de moi? J'en parle à mes amis, à mes cousins, à toute ma famille, etc. Et puis, si on arrive, effectivement, si chacun peut se connecter, mettre un petit peu d'argent et qu'on arrive aux 20 000, bah, le concert a lieu. Si ça n'a pas lieu, j'ai pas pris de risque, je me suis pas planté, et finalement personne n'en entend vraiment parler à ce moment-là. Donc c'est plus un cas isolé, mais c'est assez rigolo de se dire que finalement la création, la musique a vraiment aussi joué un rôle particulier à la naissance de Kickstarter.
Gilles Fontaine.
Oui, vous l'avez dit, c'est une industrie finalement assez jeune, une dizaine d'années, qui est née avec cette aide à la création artistique tous azimuts. Et pourtant, le cadre, en tout cas en France, le cadre réglementaire est arrivé assez tard, 2014. C'est une industrie qui est quand même assez aussi fragmentée, beaucoup d'acteurs en France, près de 180, je crois, et avec des segments assez différents. Il y a le don, il y a le prêt, il y a le financement en equity, et avec des succès assez différents. Comment est-ce que vous êtes adapté au fil de l'eau à ces réglementations, à une nouvelle concurrence, des nouveaux marchés?
Alors pour le cadre réglementaire, je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est fait. Déjà, un cadre réglementaire ne se met pas en place s'il n'y a pas une réalité existante. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, c'est facile d'arriver sur un marché et de dire attendez, on peut pas opérer, ça serait sympa de nous mettre un cadre. Ça se passe pas comme ça. Ça se passe à partir du moment où il y a des volumes. Des millions qui passent d'une poche des Français vers une autre poche de Français, et à ce moment-là les pouvoirs publics se disent bon, il y a quelque chose qui est en train de se passer là-dedans. Les plateformes de dons, qui sont les pionnières, les premières à avoir fait une entrée sur ce marché, ne posaient pas un problème démesuré, parce que c'est du don et que donc l'argent ne fait qu'un seul trajet, il va d'une poche à une autre et n'a pas l'obligation de revenir. Dès lors que vous faites du prêt, c'est plus la même histoire, c'est-à-dire qu'il va falloir pouvoir affirmer qu'on est capable de renvoyer le capital vers les prêteurs, de pouvoir leur donner des taux d'intérêt pour ce qui est des plateformes de dette. Et puis sur les plateformes d'equity, il faut pouvoir faire des packs d'actionnaires, accepter cet argent, puis rendre des dividendes ou des plus-values. Donc ça demande une ingénierie un peu plus complexe. Et à cette époque-là, la secrétaire d'État en charge du numérique, Fleur Pellerin, décide de prendre ce dossier à bras le corps et de définir un cadre réglementaire pour permettre aux plateformes de dons d'exister, aux plateformes de dette d'exister légalement, parce que certaines existaient déjà, et pareil pour les plateformes d'equity, d'exister, avoir une existence légale, puisqu'elles existaient aussi. Et je dirais que la consultation se met en place à ce moment-là, et c'est plutôt bien déroulé. Mais nous sommes pas non plus au plus proche de ce que Fleur Pellerin avait dit à l'époque. Elle avait dit je ferai de la France le paradis du crowdfunding, parce qu'on parlait aussi beaucoup des paradis fiscaux, donc c'était certainement un petit pied de nez. Je peux vous dire aujourd'hui que Fleur Pellerin a fait un travail exceptionnel, et puis les ministres qui ont suivi, dont le président de la République, qui était notre ministre de l'économie, qui a soutenu aussi le crowdfunding, Emmanuel Macron. Beaucoup de choses ont été faites. Néanmoins,
ça reste un enfer.
Ça reste un enfer. Ça serait un petit peu exagéré.
C'est purgatoire alors.
Non, pas le purgatoire non plus, mais je simplement, et ça n'engage que moi, je pense qu'on ne partage pas tous cet avis dans notre métier, mais moi j'ai la sensation qu'on nous a juste donné l'autorisation de travailler. Il y a d'autres pays européens, et je pense à l'Angleterre, ils n'ont pas toujours les meilleures idées, mais quelquefois ils en ont des très pertinentes, et sur le financement participatif, eux ont décidé d'avoir des mesures incitatives très fortes. C'est aussi les raisons de forte croissance au Royaume-Uni et d'une croissance plus tempérée en France.
Mais croissance intéressante, puisque là on a les résultats de l'association qui vous regroupe, vous principaux acteurs du crowdfunding, avec des chiffres quand même assez impressionnants, et une information intéressante que moi véritablement j'ai découverte. Vous avez parlé de la musique, Kickstarter, vous êtes toujours sur ce créneau-là, et spontanément quand on pense au crowdfunding, on pense globalement à de la culture, de l'audiovisuel, et en réalité c'est sur le secteur économique que c'est énorme les chiffres, 653 millions d'euros sur le secteur dit économique, donc immobilier, technologie, numérique, industrie, etc., contre 44 millions entre guillemets seulement sur les secteurs culturels, d'où ma question: depuis quand ça s'est, disons, littéralement emporté sur le secteur économique, et quel intérêt pour vous, par exemple Kickstarter, de rester sur, disons, le cœur de métier de base que vous aviez, à savoir la culture?
Donc nous, juste comme ça pour remettre, on n'est pas sur l'immobilier, on fait pas du tout d'immobilier. Évidemment, la catégorie technologie est une grosse catégorie.
Un peu d'environnement, vous faites aussi.
Les questions environnementales sont de toute façon au centre de nos préoccupations de toute manière. Une chose qu'il faut savoir et qui je pense explique beaucoup finalement dans l'état d'esprit de Kickstarter, c'est qu'effectivement en 2015, on a décidé de changer de statut juridique. On est passé d'une société commerciale qu'on appelle C Corporation aux États-Unis.
C'est en belge.
C-Corp.
Et vous êtes devenu PBC.
PBC, Public Benefit Corporation, qu'on pourrait traduire.
Ça, c'est pour le coup de l'anglais, qu'on pourrait traduire approximativement
par mission, entreprise à mission d'intérêt public. Alors, l'idée, c'est d'essayer de voir comment on peut effectivement allier profit d'un côté, parce qu'on n'est pas une association sans but lucratif, mais de l'autre côté.
Avec une mission d'intérêt général.
Voilà, avec une mission d'intérêt général, avec la responsabilité sociale, et de se dire comment est-ce qu'effectivement le profit peut venir servir cette mission.
Vous êtes combien précisément chez Kickstarter?
On est 140.
140.
Dans le monde entier.
140 dans le monde entier.
Et voilà. Combien de
international,
personnes
international, on est 4.
Combien de personnes actives? Combien de personnes qui ont un compte Kickstarter et qui l'utilisent?
Ah voilà, oui. On a une communauté de contributeurs, 16 millions. On sait que sur ces 16 millions de contributeurs, on en a 1 sur 3 qui revient. Donc on a 6 millions qui reviennent fréquemment sur la plateforme. Et on a dépassé donc les 4,2 milliards de dollars financés à travers la plateforme. Donc on est environ des 3,8.
Un ou deux exemples pour un peu incarner ce dont on parle. Kickstarter, ça permet de faire par exemple un film ou alors Bold Type, pour prendre deux exemples.
Oui, tout à fait. Alors... Un exemple qui est pour moi, qui parle parce que c'est un projet qui est français et qui finalement est parisien, mais pour le coup pas du tout puisqu'il a résonné à l'international. Paris est à nous. Le film qui est sorti récemment
Qui avait zéro budget à l'origine.
Qui avait besoin de vraiment pour le coup zéro budget, pas de script non plus. Donc avait décidé une petite équipe de jeunes réals qui avait décidé de faire les choses un tout petit peu différemment et d'utiliser les manifestations, d'utiliser un petit peu l'air ambiant de Paris avec la manifestation autour de Charlie Hebdo, etc. et d'utiliser ça comme background finalement de leur film. Ils ont filmé ça sur 4 ans, je pense. Ils avaient besoin de 10 000 euros pour faire la post-prod. Et ils ont lancé un Kickstarter avec un chouette trailer, honnêtement, sur qui a vraiment été ce qui a fait démarrer la campagne. Et ils sont arrivés à 91 500 euros sur la plateforme Kickstarter.
Donc, surtout un film Netflix.
Et donc, surtout un film qui a ensuite
une diffusion internationale, voilà, etc.
Ouais. Et donc ça montre aussi qu'il y a le côté financement. De toute façon, clairement, à la base, on a besoin d'un. Il y a un gap financier qu'on cherche à remplir, mais il y a tous les à côté. Et ça c'est vraiment, en tout cas, en termes de financement participatif, et je pense qu'on est tous d'accord, c'est ce qui se passe indirectement. Et quand effectivement une campagne telle que celle-là a besoin de 10 000 et arrive à 90 000, on n'a plus le même projet à la base. Et c'est là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand le projet peut vraiment devenir quelque chose d'encore mieux à travers le financement et à travers la communauté finalement.
Question du coup, effectivement, quand on pense à ces projets de crowdfunding, en tout cas même à leur début, 2010, etc., on pense en fait à ce moment, à ce moyen de réceptionner ce qu'on appelle le love money, aussi bien quand on lance une start-up que souvent un projet cructuel, c'est-à-dire que vos amis, vos proches, des gens qui vous connaissent, qui vous aiment, vous soutiennent. Quelle est la proportion sur des projets comme par exemple Paris est à nous? Qu'est-ce que vous permettez le ratio entre gens qui vous connaissent, gens qui veulent vous soutenir, et sur des projets qui fonctionnent, contributeurs qui viennent de vous et qui ne connaissent absolument personne? Est-ce que vous avez vu ces ratios-là évoluer? Sur quel type de projet ils évoluent? C'est une question qu'on peut se poser.
Clairement, la communauté, on va dire les friends and family, c'est le point de départ. C'est vraiment la première chose qu'on dit quand quelqu'un veut lancer une campagne sur une.
Vous appelez votre famille, vous appelez vos amis.
Voilà. Parce que ça part de là, parce qu'on n'est plus effectivement où il y a 10 ans, où effectivement le fait même d'être sur une plateforme était nouveau, etc. Ouais. Donc je pense qu'aujourd'hui, comme partout, il y a beaucoup plus de projets. Donc il faut avoir cette base très forte.
Et il faut qu'elle donne vite. En général, on vous dit, je vais lancer un projet sur Ulule. Il faut que dans les 3 premiers jours, tu me donnes de l'argent. Comme ça, ouais, ça décollera.
Voilà, exactement.
J'ai presque envie de vous dire, en fait, il faut donner la première seconde. C'est-à-dire, en fait, les très grosses campagnes, quand on les accompagne, en fait, on essaie de faire que les porteurs du projet ne s'organisent que pour la première heure ou la première seconde. Parce que le diable, en tout cas, le fantôme qu'on a au-dessus de la tête, c'est l'inertie. C'est-à-dire que les gens qui se regardent en chien de faïence, qui ne bougent pas, ça existe quand on fait un tour de table pour financer n'importe quel projet, mais dès lors que vous appelez la foule, eh ben, l'inertie se multiplie.
Par et en le même temps, la foule,
l'engouement se multiplie, mais l'inertie aussi.
Et l'inertie aussi.
En même temps, la foule, elle n'existe pas. Vous appelez pas la foule, justement. C'est bien ça le problème.
Non,
mais c'est petit comment on trouve la foule. Ouais.
Mais alors, nous, on parle de communauté. Vous savez, quand il y a un peu moins de monde, on parle d'une foule, et puis quand il y a un peu moins de monde, on parle d'un groupe.
Donc,
on
puis après, commence, c'est un studio de radio.
Et après, c'est un studio de radio.
Et on est
je vais commencer par vous fédérer, vous. Et puis, si vous vous donnez, j'espère que vous allez le tweeter, parce que vous avez tous des comptes Twitter assez garnis. Et à partir du moment où il y a des gens qui partagent ce que vous aimez, on appelle ça un lien d'intérêt ou un lien culturel. Et si Frédéric, vous avez financé ce projet, j'en suis sûr que les gens qui vous suivent et qui sont fans de votre émission auront envie de découvrir ce projet et de savoir pourquoi vous avez donné à ce projet-là. Donc il y a un effet domino qui se crée.
Quelle est la proportion de projets qui vont au bout ?
Alors, chez nous, c'est 70% des projets.
C'est moins. Chez nous, c'est 50, chez nous, c'est 50% des projets.
Mais il y a un point qui est crucial, hein, et qui, je ne sais pas si on a le temps de bien analyser tout ça, mais chez Kickstarter, il n'y a pas travail d'accompagnement, en fait, comme on le fait, nous, sur des petites plateformes, plus petites. C'est-à-dire que pour KissKissBankBank, par rapport à Kickstarter, il a fallu qu'on crée des équipes d'accompagnement. Donc, on a des coachs. Vous êtes toujours pris par la main quand vous êtes sur KissKissBankBank, et on vous conseille. Donc, ce qui fait qu'on arrive à 70% de réussite par rapport aux 50%... De Kickstarter, mais là c'est une politique d'entreprise qui s'appelle...
Différent. Mais alors justement, Christophe Nagel, sur ça, un petit artiste, est-ce qu'il peut gérer seul sa campagne de crowdfunding et est-ce que ça n'explique pas parfois quelques difficultés? C'est assez technique finalement, c'est pas juste d'aller sur la plateforme, on l'a dit, il y a des réseaux sociaux, il faut mobiliser des gens.
C'est technique, après je pense que l'exercice est très intéressant, je veux dire le fait de packager une idée, le fait d'apprendre à essayer de la résumer en une seule phrase, un petit paragraphe, d'en faire une vidéo de 2-3 minutes de présentation. Je crois que c'est un exercice, et on l'a vu aussi, il y a pas mal de professeurs dans des masters qui utilisent d'ailleurs le Canva, juste la structure de campagne, pas Kickstarter forcément, mais parce que toutes les plateformes se ressemblent dans la présentation d'un projet. Donc nous, notre idéal, c'est de se dire que chaque créateur a effectivement les clés pour pouvoir faire sa propre campagne. On parle souvent des très grosses campagnes, mais la majorité des campagnes sur Kickstarter, c'est entre 1 000 et 10 000 dollars. On peut faire la conversion assez facile, c'est entre 1 000 et 10 000 euros. Toutes les campagnes ne font pas forcément la une, la presse, etc. Mais donc ces campagnes-là, à partir du moment où tu as effectivement fédéré ta première communauté Friends and Family, c'est quelque chose qui est très facilement ensuite déclenchable et tu n'as pas besoin d'un budget marketing, tu n'as pas besoin de... Donc voilà, ça c'est pour en tout cas les projets culturels, ce n'est pas des projets, souvent des plus petites sommes peuvent faire vraiment la différence à ce niveau-là. Ça, je pense que les individus peuvent le faire seuls.
On voit de plus en plus aussi la présence des fameuses cagnottes comme Litchi ou le pot commun, qui d'ailleurs ont été rachetées par des banques. Comment est-ce que vous vous différenciez de ces plateformes-là? Est-ce qu'il vaut mieux aller chercher de l'argent plutôt sur des cagnottes ou sur vos plateformes? Je doute de votre réponse, mais quel est votre avantage compétitif par rapport à ces gens-là?
Parce qu'il y a une question de pourcentage, c'est ça, entre vous et eux, quand même?
Il y a une question de pourcentage, oui. C'est-à-dire que nos plateformes à nous sont à 8% TTC, si je ne dis pas de bêtises, de commission.
Les 5 plus le...
5 plus 3 de monétique, en fait, la plateforme de paiement. Donc, j'ai envie de dire que KissKissBankBank et Kickstarter sont à peu près sur le même modèle, parce qu'en fait, on a une règle qui est la règle du tout ou rien. C'est-à-dire que sur KissKissBankBank et sur Kickstarter, vous devez définir un objectif financier que vous devez atteindre dans une durée qui vous est impartie pour atteindre cet objectif, et puis ensuite vous pouvez évidemment le dépasser, cet objectif.
Mais si vous ne l'atteignez pas,
l'argent est remboursé immédiatement dans la seconde à tous les contributeurs et vous ne touchez pas cet argent-là. Alors, très souvent on se dit, mais pourquoi on ennuie les gens avec ces deux règles? C'est parce qu'encore une fois, l'inertie, il va falloir passer outre. Et d'avoir un objectif à atteindre dans une durée, ça fait que le créateur du projet se mobilise, que sa communauté comprend l'importance de l'appel et se mobilise à son tour. Ce qui fait que la moyenne sur des plateformes avec cette règle-là, moi j'appelle des plateformes sérieuses parce que c'est ce qui fait que ça marche le mieux, sur ces plateformes-là, on va dire qu'en moyenne, c'est des projets à 5 000 euros. Et 5 000 euros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le soutien moyen, il est de 50 euros. Mmh. Et qu'on a en moyenne, autour de nous, 100 personnes qui nous financent. Ces 100 personnes sont une transformation d'une communauté beaucoup plus grande. C'est une sorte d'entonnoir. Je pars d'une page fan où j'ai 2000 personnes qui m'aiment et qui me suivent, mais ils ne seront pas 2000 à venir me financer.
Ils vont être un petit peu moins. Ils ne vous aiment pas vraiment.
Ouais, non, ils ne m'aiment pas vraiment.
Il n'y a pas ce bouton-là.
Non, il n'y a pas aimer vraiment quelqu'un.
Et vraiment, je vais te filer de l'argent.
Et donc, en fait, voilà, cette transformation fait qu'on a autour de nous ce nombre de personnes qui nous soutiennent. Si vous prenez exactement des datas de moyenne sur Twitter, sur Facebook et sur YouTube, vous avez un nombre de viewers, vous avez un nombre de fans. En fait, c'est assez mathématique, statistique et empirique comme logique.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
Nous parlons ce soir du crowdfunding en mutation, c'est-à-dire des financements participatifs, notamment pour la culture, l'art, mais pas seulement, avec Christophe Nagel, directeur de Kickstarter Europe, Adrien Aumont, cofondateur de Kiss Kiss Bank Bank, à mes côtés, Gilles Fontaine de Challenge et Zoé Sfez. Revenons peut-être sur le statut aussi de vos deux structures. Vous avez évoqué tout à l'heure, Christophe Nagel, le fait que vous êtes devenu une entreprise avec une mission d'intérêt général. Mm-hmm. Du côté de Kiss Kiss Bank Bank, vous avez été racheté en juin 2017 par la Banque Postale à 100%, qui a d'ailleurs des objectifs de créer sa propre banque un peu sur un nouveau modèle, et sans doute vous allez contribuer à ça. Qu'est-ce que ça devient, la partie don dans cette évolution-là? Et au fond, est-ce que le don, c'est pas comme certains journaux le font, certains sites peut-être pas de très bonne qualité. Vous avez quelques articles qui sont rédigés comme ça et puis beaucoup de brand content à côté. Comment vous distinguez vos deux secteurs, c'est-à-dire le secteur du don qui demeure et puis un secteur vraiment d'investissement, que ce soit dans de l'equity, comme on dit, du lending, c'est-à-dire des prêts ou du capital?
Alors écoutez, aujourd'hui, Kiss Kiss Bank Bank, encore une fois, opère sur le marché du don en échange de contrepartie ou sans contrepartie, et donc on s'adresse à la culture, à l'innovation et à la solidarité. C'est énorme parce que c'est plus de 18 secteurs d'activité, enfin je veux dire, il y a beaucoup de monde dans tout ça. Et on a évidemment aussi beaucoup de commerces de proximité, on a des boulangeries qui se créent, qui vont faire du don en échange de contrepartie, parce que du coup je vais pouvoir aller tous les matins à ma boulangerie chercher mes croissants et ça crée une vie de quartier, etc. etc. Donc on a des projets assez larges. Et puis après, quand vous allez sur l'Endopolis, là, vous allez avoir des projets majoritairement d'énergie renouvelable, de parcs photovoltaïques par exemple, et des projets immobiliers. C'est très bien rémunéré. Alors il y a du risque, hein. On peut évidemment mettre de l'argent dans un projet qui ne se fait pas et perdre un petit peu de son argent, mais en tout cas, on a des taux d'intérêt qui sont suffisamment élevés pour faire que le risque soit un risque à prendre et un risque intéressant. Moi, je crois que j'ai un portefeuille.
Sur le crowdfunding immobilier, les statistiques montrent sur 32 plateformes en France, 185 millions d'euros levés, il y a un taux de défaut de 0,67%, donc c'est pas très important.
Ah, c'est génial même.
Ça va mieux de ce côté-là.
Ça va mieux. Il y a eu des gros problèmes.
Bien sûr, il y a toujours un peu de casse quand il y a une innovation comme celle-ci. On peut pas être parfait du jour au lendemain.
Mais la rentabilité, vous dites, la rentabilité est bonne. La moyenne, encore une fois, sur cette étude. Crowdfunding immobilier, c'est plus 9%, c'est relativement bien, surtout aujourd'hui. C'est vrai chez vous aussi, comment ça se passe?
C'est vrai aussi chez nous. Je crois que si je prends mon portefeuille, moi je dois être à un portefeuille à 8,30. Donc si jamais, imaginons que je me retrouve avec 2% de défaut, moi, en moyenne je tombe à 6,30. Et après impôt, je suis vraiment nul en maths, hein, je vais me faire écorcher au bureau, mais je vais être à 5. Bon, bah, faut trouver une épargne qui vous rémunère à 5%
actuellement,
par an. Ouais. Actuellement, faut se lever de bonne heure. Et puis, juste pour finir là-dessus, parce que c'est quand même le point le plus important pour nous, ok, ça rémunère, mais surtout, il faut qu'on soit nombreux à le faire. Mm-hmm. Parce qu'en fait, c'est quand même un moyen de d'injecter de l'argent dans l'économie réelle. Et on oublie la force finalement politique que ça a de faire du crowdfunding et de mettre un peu de son épargne dans cette économie-là.
Mais là, on parle de crowdlending en fait plutôt que de crowdfunding.
Je parle de crowdlending, mais l'économie réelle, c'est de se dire, bah, y a un peu de mon argent qui part en don pour faire un film, qui part en préachat sur tel objet, qui part en préachat sur tel restaurant, qui part.
Et puis beaucoup pour l'immobilier.
Et puis pas mal pour l'immobilier, pas mal pour les énergies renouvelables. Et en fait, du coup, quand vous avez un compte chez nous, vous êtes capable de faire plein de choses très très différentes avec votre argent et ça permet aux uns, les porteurs de projets, de reprendre du pouvoir sur leur projet et puis pour les autres, de reprendre du pouvoir sur leur argent.
Et là, on n'est plus tout à fait dans la même philosophie parce que l'idée de départ, c'était quand même que tout ça se passait entre particuliers. On assiste quand même à une professionnalisation au-delà du fait que vous vous faites tous racheter par des banques.
Pas tous.
La moitié de ceux qui sont là.
Oui, on assiste quand même à une professionnalisation. L'Endix, ex-Lendix, mais aujourd'hui rebaptisé October, fêtait justement son nouveau nom de baptême au mois d'octobre ou novembre, en invitant 11 grands groupes à emprunter 100 000 euros chacun sur sa plateforme. En tout cas, sur l'histoire du prêt, quand on parle de champs éoliens ou de panneaux solaires ou de projets immobiliers, c'est pas forcément des particuliers qu'on a en face. Donc ça change quand même aussi la donne et on vous critique un petit peu là-dessus. Enfin,
Alors écoutez, en fait, je sais pas ce qui, je pense que ce qui est critiqué, c'est plus le modèle d'October ou de Lendix, qui est celui finalement de dire on fait du financement participatif, mais finalement il n'y a que 1% des fonds qui viennent du grand public, 99% qui viennent de fonds, d'obligations, etc. Donc ils ont fait une machine qui marche très bien, hein, qui
c'est le numéro 1 en France d'ailleurs.
Et qui permet de financer quand même nos entreprises françaises. Donc faut pas tout jeter avec l'eau du bain, mais la critique elle est de ce côté-là, chez nous.
Vous diriez qu'ils ne font pas vraiment partie des leaders des acteurs, c'est pas un acteur du financement participatif.
C'est pas réellement du financement participatif. D'accord. En tout cas, le fonctionnement n'est pas un fonctionnement qui marche avec la foule. Nous, on a voulu garder la foule. On pense que c'est clé, que c'est ce que la foule chante juste. Donc, vous lui montrez une entreprise.
Et on parlait de la Pologne au début de cette émission. On pourrait parler de l'Italie et du Brexit. Elle ne chante pas toujours juste.
C'est vrai que on n'est pas dans la meilleure période pour
elle chante
pour
faux, mais peut-être pareil. Qu'elle va s'améliorer.
J'espère qu'elle va s'améliorer. Mais
Comment est-ce que
la foule permet d'avoir moins de risques. C'est là où je veux en venir, en fait. C'est qu'il y a des experts dans la foule. Donc, ils savent s'il faut prêter ou pas à une entreprise. Et quand on a fait un beau travail d'analyse au préalable...
Donc, c'est plus la foule, c'est plus la démocratie. C'est une aristocratie que vous défendez. Des experts.
Les experts, attendez, vous avez des experts en tout genre. Vous avez des gens qui s'y connaissent en franchise, et en alimentation. Et il se trouve qu'il y a un projet d'alimentation franchisé. Cette personne peut éclairer la foule. Ouais.
Comment vous voyez les évolutions en cours du secteur des financements participatifs, du crowdfunding ou du crowd equity ou encore du crowd lending, pour parler de... On a beaucoup de mots anglais ce soir, mais ces financements participatifs peuvent être faits à travers des dons, à travers des prêts ou à travers du capital. On voit des consolidations, concentration du secteur, avec des monopoles un peu qui se créent de certains, diversification aussi des objectifs, des secteurs atteints. Les levées de fonds sont en augmentation. Comment est-ce que vous voyez le secteur se dessiner, son avenir, Christophe Nagel?
Moi, je peux vraiment uniquement parler sur le don avec contrepartie, puisque c'est là où Kickstarter a été le pionnier, et c'est ce qu'on fait, et c'est le cheval de bataille qu'on a choisi. Donc on ne fait absolument que ça. On parlait d'avant, effectivement, d'un statut de Public Benefit Corporation qui nous permet effectivement de soutenir l'art et la culture, qui sont pas des grosses, qui sont pas des catégories, on va dire, où le financier a une grosse importance. On a la chance d'avoir des catégories qui sont porteuses chez nous, comme le jeu, tout ce qui est games, tabletop games,
jeux vidéo,
games,
donc,
jeux vidéo, jeux aussi de plateau qui sont énormes. Là, pour le coup, il y a
grâce à des communautés dédiées très puissantes.
Absolument. Où les étoiles étaient alignées, où le circuit classique, on va dire, de financement d'un jeu de plateau est complètement cassé, inexistant, et c'est des catégories comme celle-là et la technologie aussi qui nous permet effectivement de venir réinjecter et de refinancer des efforts plus vers l'artistique.
C'est une parenthèse sur votre question, votre réponse, mais on n'a pas évoqué les contreparties justement. Quelles sont-elles pour une structure comme Kickstarter?
C'est les artistes qui décident.
C'est les créateurs qui décident. Ils ont la carte blanche par rapport au nombre et par rapport à ce qu'ils veulent offrir comme contrepartie.
Et ça peut être quoi, par exemple?
Alors, par exemple, si on parle je prends l'exemple de la photographie, ça peut être un livre photo, donc ça peut être une expo, ça peut être des entrées, ça peut être une expérience autour de ce de
pour le film, c'est ça,
expo.
Assister à un
pour
jeu de tournage, absolument, avoir un poster dédicacé.
Voilà, il y a différents types.
Une
avant-première, ça peut être le produit en tant que
concert.
Effectivement, on demande de l'argent pour financer, pour amener un point final à un docu. Ça peut être un download du docu, un accès en streaming, ça peut être des choses comme ça. Ça peut être son nom au générique quand on parle de plus petites contributions. C'est des choses qui sont assez faciles à mettre en place et qui ont pas mal de valeur.
Les évolutions en cours de ce secteur, Adrien Aumont, comment vous les voyez?
Écoutez, vous avez parlé tout à l'heure de Patreon. Donc le fait de pouvoir finalement faire des dons récurrents. Ça, c'est une des dernières innovations fortes de notre marché.
Des petits dons, mais fréquemment.
Exactement.
Même si c'est 2 euros, ça fait 22 euros par an. Quoi.
Voilà.
Ce qui fait, par exemple, pour un youtubeur ou une youtubeuse, comme on reçoit parfois dans SoftPower, ça fait quasiment un petit salaire quoi, de 600 euros. Si, par exemple, vous avez des gens d'une chaîne qui vous aiment bien, vous pouvez avoir un vrai complément de salaire.
Ouais. Et c'est d'ailleurs tous les nouveaux créateurs de contenu qui sont passés par cette formule-là. Et on voit aujourd'hui, d'ailleurs, les gens qui s'intéressent à Patreon, etc., c'est des grosses entreprises comme Spotify, comme YouTube, etc. Moi, je Nous, on a racheté récemment Goodid, qui est donc la plateforme dont je parlais tout à l'heure, qu'on n'a pas créée nous-mêmes. On a été. On a pêché.
La racheté.
Exactement. Et en fait, la vision de Vincent, le fondateur de Goodid, c'est de se dire, en fait, il y a plein de gens qui sont mineurs, qui ont pour autant envie de participer à la vie des associations, des ONG, de la solidarité. Eh bien, eux, on va leur permettre de regarder une publicité. L'argent de cette publicité va aller directement à ces ONG et ces associations. Donc ça, c'est une innovation dans notre secteur. C'est-à-dire, on va pouvoir faire payer la publicité pour transférer cet argent vers ceux qui font. Mmh. Il y a des choses à imaginer, je pense, sur l'equity. L'equity, on voit qu'en France, c'est en baisse. Mais le cadre réglementaire n'est pas non plus des plus incitatifs. Ce qui marche le mieux aux États-Unis, c'est la syndication. C'est le fait de pouvoir suivre un entrepreneur de talent, de génie qui a réussi, qui décide d'investir son argent dans des entreprises. Et moi, je vais pouvoir faire exactement les mêmes mouvements que lui. Donc je vais pouvoir suivre, je dis n'importe quoi, le fondateur de BlaBlaCar, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, je trouve très fort. Quand il met de l'argent dans une start-up, et ben moi je vais faire exactement la même chose que lui.
Voilà, avec ça, des sommes peut-être plus modestes,
avec,
mais
évidemment,
la même
avec évidemment des sommes plus modestes, mais je vais suivre son expertise. Donc là, il y a des petites choses comme ça à faire sur.
Donc ça,
sur,
c'est des évolutions majeures de ce secteur. Ouais.
Et puis je vous raconte ce cadre légal anglais qui est assez génial, c'est que ce qu'ils ont fait eux sur le marché du peer-to-peer lending. Donc de la dette, ça a été de dire nous allons donner l'obligation aux banques de transférer tous les dossiers à qui ils n'ont pas voulu prêter de l'argent vers ces entreprises de crowdlending. Ce qui fait que tous les matins, tu as une start-up de crowdlending en Angleterre, tu as tous les fichiers que les banques ont refusés la veille, tu rentres ça dans ta machine de risque, dans ton algorithme, et ça
et
va
tu
dire...
tu en sauves quelques-unes.
Et en fait, tu en sauves pas mal. Mmh. Et à ce moment-là, ces entreprises sont sauvées, sont mises en ligne, les internautes vont pouvoir prêter à cette entreprise, et l'équivalent de la BPI, donc notre banque publique d'investissement en Angleterre, a l'obligation d'abonder. Et rentre à 5% sur toutes ces campagnes.
Et le risque de défaut n'augmente pas, en tout cas.
Et non. Et la performance est au rendez-vous. Mmh. Et surtout, ça permet à cette banque publique de tester la performance en ayant soi-même son argent dedans. Donc, ils ouvrent un champ des possibles à toutes ces entreprises. Ils injectent énormément d'argent dans l'économie réelle. Et puis, ils abondent eux-mêmes pour tester le modèle et pour être solidaires, finalement, de tous les Anglais qui ont décidé aussi de diversifier leur épargne de cette manière-là.
Christophe Nagel, sur ces évolutions aussi en cours, on observe, en tout cas, j'ai vu un certain nombre de campagnes qui, au fond, étaient moins faites pour lever des fonds que pour avoir un côté un peu... créer une sorte de buzz, un peu un teaser, une sorte de prendre aussi le thermomètre du marché, au fond, comme outil de communication. Est-ce que vous observez cette utilisation du crowdfunding, non pas réellement pour le financer, mais pour, au fond, accompagner ce projet d'un point de vue numérique ou médiatique?
Oui, on le voit, il y a différents cas de figure, et tous les deux scénarios existent vraiment. On a des personnes qui veulent absolument filer, comme je l'ai dit, remplir un gap de 5 000 ou de 10 000 parce qu'il y a effectivement ce besoin en post-prod, où là, effectivement, les 10 000 vont faire la différence. Si je pense à, par exemple, le documentaire, où des petites sommes comme ça font, pour un documentariste, font des grosses différences, où on n'est pas comme dans la fiction, où les budgets sont beaucoup plus grands. Donc, on a à côté de ça des gens qui disent, on a un projet, honnêtement, il est aussi financé, il est déjà financé, il va exister, mais ça, voilà, une campagne de crowdfunding nous permet de vraiment faire en sorte qu'on fasse appel aux gens pour les mettre au centre du développement créatif.
Les artistes
de cette idée,
on récupère leurs données, les informations sur tous ceux qui ont contribué, tout ça est ouvert, comment ça se passe?
Uniquement à partir du moment où la campagne est arrivée, réussie.
Voilà, à partir de là, ils ont toutes leurs données.
Voilà, absolument. Donc ça, c'est
pas comme chez Spotify où ils savent rien ou presque.
Voilà, non. Et donc nous, les règles sont assez strictes. Ça fait partie aussi de notre charte pour revenir justement à la Public Benefit Corporation. On a une charte qui est très stricte par rapport à ça, au respect de la vie privée, au respect des données, etc.
Donc, et c'est comment uniquement... vous choisissez les projets que vous allez mettre en avant, par exemple sur votre site?
Oui, comme Adrien l'a dit tout à l'heure, on n'a pas effectivement des équipes sur place pour, en tout cas locales, pour accompagner tous les projets, mais on a une équipe éditoriale qui est basée à New York et qui effectivement ensemble avec toute l'équipe communauté qu'on appelle l'équipe outreach qui elle est en silo et qui couvre toutes les différentes catégories
qui va vers les gens
et qui ont justement leur propre réseau dans ces différentes catégories. Ensemble, on discute effectivement de quels sont les projets qu'on a envie de mettre en avant. C'est pas forcément ceux qui en ont le plus besoin, c'est souvent ceux qui parlent, c'est souvent les underrepresented voices comme on les appelle aux États-Unis,
ceux qu'on n'entend pas,
ceux
qui sont
invisibles, absolument, et c'est généralement ça, une fois de plus aligné avec la mission d'intérêt public historique de Kickstarter.
Alors, une dernière question, Frédéric, Gilles Fontaine.
Frédéric évoquait l'éthique, le thème de l'éthique avec la donnée des artistes. Est-ce que vous êtes aussi, ou est-ce que vous vous sentez responsable des contenus? En l'occurrence, vos contenus sont des projets. Certains, il y a eu déjà parfois des polémiques, justement, sur certaines, plus sur les cagnottes d'ailleurs que sur vos plateformes. Mm-hmm. Est-ce que vous êtes d'une manière ou d'une autre responsable de ce qui se passe sur votre... sur vos sites Grand Blanc?
Non, pas du tout.
J'attendais une réponse.
il faut réfléchir à la question aussi. Je pense qu'il y a un prix à payer de l'innovation. Si on regarde un petit peu sur la somme des projets, que ce soit sur ma plateforme ou la plateforme d'Adrien, la majorité des projets ne sont pas là pour... ne sont pas lancés pour des raisons on va dire malignes ou des choses qui sont
négatives, oui.
Voilà, qui sont absolument forcément négatives.
Non, bah ça je partage Adrien, complètement ouais. Je partage complètement ton point de vue là-dessus. Ça reste des plateformes de gens qui font des choses, donc majoritairement
des choses qui n'existent pas encore par définition. Et donc c'est un peu ce que je disais, c'est un tout petit peu parfois.
On est au cœur de l'innovation.
On est au cœur de l'innovation.
Mais vous refusez parfois des projets.
On refuse parfois des projets, mais ça c'est juste plus parce qu'on a effectivement des règles qui sont relativement strictes. On est une plateforme qui est vraiment ouverte, mais on garde quand même des règles. On fait pas dans tout ce qui est, je dirais, en dessous de la peau, dans le médical, il y a des choses
Adrien
comme ça.
En fait, il y a un point qui est important, c'est-à-dire que chez KissKissBankBank, tous les projets sont modérés et accompagnés. Donc on peut pas dire qu'on voit pas passer un projet, je veux dire, on est trop proche de nos utilisateurs pour laisser passer du n'importe quoi. Les plateformes qui laissent passer n'importe quoi sont celles qui font pas d'accompagnement et qui font pas de modération, c'est-à-dire les plateformes de cagnotte dont vous parlez, où n'importe qui crée son truc, rentre en ligne, n'a pas de conseils et est à la merci du web. Nous on a fait ce choix d'être un petit peu comme chez nous. Donc on se laisse le droit de refuser un projet parce que il est peut-être pas dans l'illégalité, mais en tout cas il correspond pas à notre signature qui est libérer la créativité. Si ça libère pas la créativité, si ça met les gens les uns contre les autres, si c'est pour mettre quelqu'un à mal, si c'est, on prend pas, c'est que ça correspond pas à notre philosophie en fait. Après, une fois que je vous ai dit ça, c'est compliqué comme truc parce que ça fait forcément des grandes discussions au bureau. Est-ce que ce projet, on peut le prendre? Est-ce qu'on peut pas le prendre? Etc. Les Américains, ils s'embêtent pas de ce genre de choses. Et on a qu'à le voir. Je parle pas d'ailleurs de Kickstarter. Je parle plus des GAFA. Je parle de Facebook. Je parle de Twitter. On le voit bien. Il faut des actions de droit absolument gigantissimes et avoir beaucoup de budget pour faire retirer une page d'un type qui est abominable sur une de ces plateformes-là. Donc c'est le droit qui prime. Et nous, j'ai tendance à dire que c'est plus la philosophie du crowdfunding et la philosophie de notre entreprise.
Merci infiniment à tous les deux, Christophe Nagel, directeur de Kickstarter Europe, et Adrien Aumont, cofondateur de KissKissBankBank, pour cette émission qui était consacrée au crowdfunding dans sa première partie, le crowdfunding en mutation, le financement participatif, qu'il soit par don, par prêt ou par capital. Comment est-ce que ce secteur est en train d'évoluer? Soft Power, dans un instant, la seconde partie de cette émission, avec à 20h10 le club de la presse numérique, et nous parlerons ce soir d'intelligence artificielle, notamment au moment où Google a essayé de réguler un petit peu ce secteur d'un point de vue éthique, et ça, comment dire, un peu était difficile. Et dans un instant, à 20h, OSFS, votre invité innovation est Delphine Rémy Boutang.
La fondatrice de la journée de la femme digitale, la JFD, qui c'est la 6e édition cette année, c'est en partenariat à Radio France et ça se passe à la maison de la radio ce dimanche. On va essayer de comprendre pourquoi est-ce que cette journée avait besoin d'exister, pourquoi elle fonctionne si bien et pourquoi il y a toujours aussi peu de femmes dans ce secteur du digital. Je crois que c'est un mot que Delphine Rémy Boutang préfère au secteur numérique. On verra pourquoi.
Vous pouvez vous abonner au podcast de Soft Power, disponible gratuitement sur iTunes, sur la page de Soft Power, sur le site de France Culture, ainsi que sur l'application podcast de votre smartphone. Tout ça, tout cela à suivre après le français Gessa Felstein sur France Culture. I take it up, you're the one I roll the dice on. C'est un DJ français de 31 ans, Mike Levy, connu sous le nom de Gesa Feldstein, qui rencontre actuellement un succès ascendant sur la scène électro mondiale. Long article fin mars dans le New Yorker, ce qui n'est déjà pas donné à tous les artistes français. Et son nouvel album, sorti en mars également, accueille des morceaux avec un featuring, comme on dit. Le terme est très utilisé dans la musique électro, mais aussi dans le rap pour indiquer une invitation, un guest star où l'on invite sur son propre album un autre artiste. En l'occurrence, le DJ français Gesa Feldstein reçoit Pharrell Williams, mais aussi The Weeknd, excusez du peu. En tout cas, on est dans la énième vague de la French Touch Electro, et nous en reparlerons dimanche prochain avec une émission complète dédiée au bureau export de la musique, l'exportation de la musique française, et je recevrai Marc Tonon.
France Culture, Soft Power, l'invité de Zoé Svez.
Bonsoir Delphine Rémy Boutang.
Bonsoir.
Bonsoir et merci d'être avec nous. Vous êtes la fondatrice, la pilote de la journée de la femme digitale qui est déjà dans sa 6e édition en ce dimanche 14 avril, édition, sa 7e édition, mais oui, pardon, excusez-moi, à la fin, il y en a déjà eu 6, c'est la 7e. Ce 14 avril, ça se passe à la Maison de la Radio avec laquelle vous avez un partenariat. Cette journée de la femme digitale. Pourquoi est-ce que vous avez eu envie de la lancer? Vous travaillez aujourd'hui dans un bureau de communication qui s'appelle The Bureau, mais je crois que vous avez eu une carrière d'ailleurs assez fulgurante chez IBM, l'un des grands leaders de l'informatique. À quel moment vous vous êtes dit, moi particulièrement, je suis au bon endroit pour lancer cette journée de la femme digitale qui n'est, je crois, pas d'ailleurs qu'une seule journée dans l'année?
Absolument. Je suis rentrée en France en 2013. J'ai vécu 15 ans en Angleterre où j'ai travaillé chez IBM, effectivement. Et quand je suis rentrée en France, j'étais invitée dans plein d'événements autour de l'innovation. Et à cette époque, et encore maintenant, mais j'étais très souvent la seule femme autour de la table à prendre la parole sur ces sujets. Et j'ai pensé qu'il était temps de présenter des femmes rôle modèles qui travaillent dans ce secteur. Et il y en a beaucoup, sauf qu'on ne les voit pas assez et il est temps de les rendre plus visibles.
Ouais, c'est intéressant parce que vous dites qu'on les voit pas assez. Alors déjà, elles sont pas si nombreuses que ça, en tout cas toujours pas. Je crois que les chiffres ont évolué, mais c'est toujours 27% des femmes engagées professionnellement dans le secteur dit numérique, 10%, ou je crois que c'est un peu plus aujourd'hui, à la tête de start-up, 3% qui connaissent vraiment le code. C'est des chiffres quand même assez faibles, très faibles, encore aujourd'hui en France. D'où ça vient, sachant que, et on le sait, il y a eu des films d'ailleurs qui ces derniers temps l'ont mis en lumière, pendant très longtemps, les gens qui étaient les plus proches des ordinateurs, c'était des femmes, c'était des mathématiciennes, c'était des calculatrices, cette figure très importante de Katherine Johnson qui a été honorée par Barack Obama. Et il y a eu comme une espèce de culture brisée, finalement.
Complètement. Donc le numérique, effectivement, c'était les femmes, hein. Même le code est un langage et c'est une femme qui l'a créé.
Ada Lovelace.
Et puis,
la fille de Lord Byron. On ne le sait pas assez.
Oui, et on ne sait pas ce que faisait sa mère, mais on parle beaucoup de son père, mais ouais. Que faisait sa mère? Et toutes ces femmes comme ça qui, effectivement, ont fait que le numérique existe aujourd'hui. Et d'ailleurs, on leur donnait ce rôle parce qu'on le considérait comme un second rôle, parce qu'elles étaient bonnes à faire du tricot, elles étaient bonnes en maths. Et donc, les militaires considéraient que c'était des femmes à qui on pouvait donner ces seconds rôles. Et puis, dans les années 70, quand le numérique a pris ses lettres de noblesse, les hommes s'y sont engouffrés et nous ont laissé à ce triste chiffre de un petit peu moins de 30%. Ce qui est effectivement inquiétant, aggravant. Alors, même si on se retrouve maintenant depuis 7 ans, c'est quand même toujours sur ce constat que les femmes sont complètement sous-représentées et ce secteur qu'on dit, ce secteur du futur, est en train de s'écrire dans l'inégalité la plus totale. Donc il y a l'urgence de enfin réussir à faire que ce chiffre arrive à, on est 52% de l'humanité, on se doit d'être représenté à 52% de l'humanité sur ces sujets important, l'intelligence artificielle, les robots sont créés par des hommes, ressembleront à des hommes.
Avec des algorithmes qui souvent ont des biais assez importants à l'égard des femmes. On en parlera d'ailleurs bientôt dans Softpower avec deux jeunes chercheuses qui travaillent sur la question. Mmh. Avant de revenir sur ces freins et cette situation de fait, est-ce qu'on peut faire pour la changer? Vous citez souvent des chiffres qui me paraissent très intéressants et que je ne connaissais pas. Des chiffres de l'OCDE qui disent que non seulement le secteur numérique serait plus riche culturellement et humainement, parce que souvent on réduit ça à ça, mais serait plus riche en termes de chiffres s'il y avait plus de femmes engagées dedans. C'est un rapport. Qu'est-ce qu'il dit, ce rapport ?
Il dit que si on arrivait à atteindre l'égalité entre les femmes et les hommes dans le secteur du numérique, alors le PIB européen augmenterait de 9 milliards d'euros.
Incroyable. Comment est-ce qu'on le pense et qu'est-ce que vous pensez justement que les femmes pourraient apporter à cette économie numérique? Alors, c'est assez affreux de poser la question comme ça, mais quels sont peut-être les territoires délaissés ou qu'elles peuvent venir nourrir ou enrichir?
Alors, tous les secteurs, en fait, finalement, se numérisent aujourd'hui, se digitalisent, et donc les femmes apportent cet autre regard. Ça ne veut pas dire qu'il est meilleur, c'est simplement qu'il est différent et qu'il doit être, il doit répondre à des problématiques, des enjeux sociétaux sur lesquels les femmes répondent. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que les secteurs qui jusqu'à présent étaient dits des secteurs secondaires, les femmes entreprennent dans les services, les biens à la personne, la santé, le développement durable.
Les fameux domaines traditionnellement féminins.
Voilà. Or, il se trouve que ces domaines, principalement, ce sont les enjeux de demain. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a cette chance inouïe qui est qu'on est là où était le numérique à l'époque, on est déjà très présent dans ces secteurs. Et ces secteurs qui vont devenir ces secteurs des enjeux de demain sur lesquels on doit répondre. D'où l'urgence, effectivement, de rendre à Margaret ce qui appartient à Margaret, avoir rendu à César ce qui appartient à César.
Alors justement, quels sont les freins? Qu'est-ce que vous pouvez offrir et qu'est-ce que c'est que cette journée de la femme digitale? C'est quoi les principaux freins aujourd'hui? Parce qu'on sait très bien qu'il y a effectivement le fait que c'est masculin, il y a beaucoup d'autocensure chez les femmes, on parle évidemment de ça, c'est-à-dire de difficultés à s'engager ou à se penser légitime dans certains domaines. Elles sont où? Elles sont pas assez où? Et où est-ce qu'on peut les emmener?
Alors, nous on a identifié trois piliers majeurs sur lesquels on pense qu'on peut faire évoluer les choses. Un, c'est la formation. Se former, tout le temps, apprendre à apprendre, puisque aujourd'hui, c'est plus le gros poisson qui mangera le petit, mais c'est le poisson le plus rapide qui mangera le plus lent. Donc, il faut aller vite, il faut se former rapidement, faire des formations courtes, parce que ce qu'on aura appris dans 5 mois est déjà has-been, tellement ça va tellement vite, etc. Donc, formation, ça, c'est essentiel. Et former jeune, très jeune, casser ses stéréotypes dès le plus jeune âge, et on a des écoles formidables qui l'apprennent, Become Tech, Magic Makers, etc., et qui seront le 17 avril pour cette 7e édition dans cette belle maison ronde. Financement, l'accès au financement, on le sait aujourd'hui, le vrai plafond de verre est réel.
Et vous dites d'ailleurs, ça c'est très intéressant, que les femmes ont du mal à demander beaucoup d'argent à des hommes, parce que les business angels sont souvent des hommes. C'est même pas qu'eux ne donnent pas l'argent, c'est qu'elles voient trop petit. Or, on le sait, les startups, il y en a très peu qui finissent par transformer l'essai. Et il faut viser juste. Quand on demande trop petit, on a peu de chances de survivre. Et les femmes demandent trop peu.
Absolument. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Ça, c'est vraiment une chose, effectivement. Et de passer de start-up à scale-up, parce qu'on parle beaucoup de la start-up nation, mais je pense que c'est important de parler de la scale-up nation.
C'est-à-dire celle qui a transformé l'essai et qui a réussi à devenir une entreprise qui existe. Ouais.
Exactement. Et ça prend à peu près 7 ans. On considère que c'est à peu près 7 ans pour passer de start-up à scale-up. Et dans ces 7 ans, il y a des trous noirs, il y a des moments où il faut effectivement demander de l'argent pour accélérer un business, etc. Il y a plein de façons de le demander. C'est pas systématiquement les levées de fonds, parce que pour ça, levée de fonds, il faut parler valorisation, etc. On peut aller demander à son banquier de l'argent pour accélérer, pour aller recruter des nouvelles équipes, etc. Et il se trouve que les femmes, effectivement, le font principalement avec leurs fonds propres. Pour plein de raisons, parce qu'en face d'elles, elles ont des hommes qui pensent et considèrent que les sujets sur lesquels elles veulent lever de l'argent ne correspondent pas à leur vision. Donc, il n'y a pas assez de femmes dans ces secteurs. Et on verra des femmes le 17 avril qui nous présenteront des fonds d'investissement comme Stéphanie Hospital, de One Hack Time, etc. Donc ça, c'est vraiment un point essentiel, l'accès au financement. Et puis, le troisième point qu'on a identifié, donc formation, financement, en sachant que le chiffre quand même incroyable sur lequel il faut quand même s'arrêter 2 secondes, c'est les fonds d'investissement en France, c'est 7,7%. Donc les femmes ont levé 7,7% des fonds disponibles. Et dans le monde, c'est 2,2%.
Donc en fait, on est catastrophique en France, mais on est moins catastrophique à l'échelle mondiale. Ouais. Bon, c'est déjà une pas si mauvaise idée. Formation, financement
et le troisième, c'est confiance. Parce que je crois qu'on ne peut pas être qu'on n'a pas vu. Et plus on aura de rôle modèle, et plus on verra des femmes qui réussissent, mais qui réussissent de plein de façons. C'est pas seulement en ayant levé 300 milliards d'euros qu'on est la réussite, elle est plurielle. Et elle se doit d'être justement, de présenter des rôles modèles qui sont venus de tous horizons pour justement donner envie, d'oser, d'innover, d'entreprendre ou d'intraprendre. Le message de dire « crée votre start-up, c'est facile », etc., c'est pas vrai. C'est un vrai sacerdoce, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'appelés peu d'élus, beaucoup d'entreprises meurent. Au bout de 2 ans, il faut rester, etc. Mais la confiance, à mon avis, reste quand même essentielle. Et d'avoir justement ces femmes qui présentent ces réussites vont donner envie à d'autres femmes de se lancer aussi, d'entreprendre ou d'entreprendre. En tout cas, d'entreprendre leur vie.
Et vous dites souvent, d'ailleurs, les femmes ne rêvent plus d'être numéro une, cette fameuse figure de la femme qui réussit dans un secteur traditionnel, soit en adoptant les codes masculins, soit en se construisant contre. Là, il y a une nécessité de créer un réseau. Donc, c'est ce que vous faites au-delà de cette fameuse journée du 17 avril. Comment est-ce qu'il vit ce réseau? Qu'est-ce qu'elle est aussi, disons, la manière dont il continue à faire exister cette communauté et cette communauté presque exclusivement féminine? Il n'y a pas que des femmes.
Pas que des femmes, parce que je pense que c'est ensemble qu'on construira ce monde qu'on veut meilleur et plus équilibré. Chaque année, on fait une étude pour essayer de percer et de comprendre ces mystères, de pourquoi les femmes sont si sous-représentées. Et un des leviers qu'on a identifié, et on pose la question, de quoi avez-vous besoin pour percer dans ces secteurs-là? Les femmes avaient répondu quelque chose qui paraît très simple, c'est de réseauter, de networker. Les hommes le font formidablement bien, et ça, on doit prendre exemple d'eux. Et ce réseau doit s'agrandir et c'est comme ça qu'on crée aussi des événements tout au long de l'année, puisqu'on change pas le monde en un jour, mais c'est tout au long de l'année qu'on a ces rencontres pour réseauter, pour networker, pour se recommander entre nous et pour réussir. Et ce réseau maintenant qui se lance à l'international, puisqu'on lance une édition en Afrique.
J'ai vu ça à Continent, où les femmes, pour le coup, sont très nombreuses à entreprendre. Et où il y a un beau terreau à faire. Merci beaucoup, Delphine Rémy-Boutang. La journée de la femme digitale, ça se tient donc le 17 avril prochain. Là, c'est dans quelques jours et c'est à la Maison de la Radio. On peut venir y participer. On peut regarder aussi ce que vous faites sur Internet pour se connecter, celles qui auraient des velléités.
Absolument, sur la journée de la femme digitale.com et le 17 avril à Paris et le 13 juin à Dakar.
Merci beaucoup.
Merci infiniment à vous. Le temps de vous recommander un livre, petit clin d'œil numérique. Il est écrit par un homme, d'ailleurs, La civilisation du poisson rouge. Il est signé de notre ancien directeur ici à France Culture, Bruno Patineau, aujourd'hui chez Arte. Son livre s'intéresse à l'attention, les images, les sons produits par les industries culturelles, la lecture, l'art et les réseaux sociaux. Tous ces médias sont en concurrence pour capter notre attention. Telle est la bataille engagée par les GAFA, notamment les Google et autres Apple, dans la guerre économique de l'attention. Étrangement, le livre, assez contre-intuitif, met en garde contre les risques du numérique, quand Bruno Patineau en a été plutôt l'un des évangélistes en France. On aura l'occasion de l'inviter dans cette émission pour en parler. Bruno Patineau, La civilisation du poisson rouge, est publié chez Grasset.
Soft Power, le club de la presse numérique, Frédéric Martel.
Le club de la presse numérique sur France Culture, pour terminer cette émission Soft Power. Ce soir, nous parlons avec nos deux invités, Gilles Fontaine, qui est resté depuis le début de cette émission, et Christian Paul, ancien ministre. Nous parlons de l'intelligence artificielle. A-t-elle besoin d'éthique? Et plus précisément, nous allons poser la question. Alors, nous reviendrons sur l'intelligence artificielle en Europe. Est-ce que nous sommes actifs et leaders dans ce secteur? Comment est-ce qu'on peut réfléchir à un cadre légal pour l'intelligence artificielle? À quoi servent les conseils qui tente de réguler ce secteur, comment on peut le faire? Et pour commencer, on évoque Google et son conseil éthique pour l'intelligence artificielle. Il y a quelques jours, Google a annoncé le lancement, la création du Google AI Ethics Board, c'est-à-dire un conseil éthique qui a été créé pour guider Google dans ses développements en matière d'intelligence artificielle. Il y avait 8 membres, dont d'ailleurs 3 femmes, mais 2 de ces membres, et 2 femmes précisément, Kay Coles James et Diane Gibbons-Drone, sont ou ont dû démissionner, alors même que Alessandro Acchitti, l'un des autres membres, a démissionné également. La question qui se pose ce soir, et on commence par ça, peut-être avec vous, Gilles Fontaine, à quoi peut bien servir un conseil de ce type ? Et les choses sont plutôt mal parties pour Google, puisque 10 jours après sa création, 3 de ses membres disparaissent, et le débat est assez vif.
Il n'y a plus de comité éthique, voilà. Donc c'était parti pour le monde d'une bonne intention. Pourquoi un comité éthique sur l'intelligence artificielle ? Google n'est pas le premier à avoir à prendre ce
Microsoft
genre d'initiative.
Et Facebook en ont un.
Effectivement, apparemment, de leur côté, ils ont réussi à plutôt bien organiser les choses. Eh bien, pour répondre, je pense, à de grosses inquiétudes, aussi bien du grand public que des politiques et des administrations sur l'avenir, le devenir de ces technologies qui sont aujourd'hui un peu partout, hein, dans ce que développent les grands groupes de technologies, aussi bien américains que chinois et en Europe. Impossible de créer sa start-up aujourd'hui s'il n'y a pas le mot intelligence artificielle quelque part. Derrière intelligence artificielle, il y a le mot artificiel, et puis il y a les mots aussi machine learning, notamment, qui font un petit peu peur, c'est-à-dire qu'on apprend par des algorithmes aux machines à apprendre toutes seules et à tirer des conclusions et à prendre des décisions par elles-mêmes. Les applications les plus immédiates qu'on peut voir et les plus visuelles, c'est ces accidents de voitures autonomes qui se conduisent toutes seules. Et d'ailleurs, Google est engagé très fortement aujourd'hui dans toutes ces activités-là, aussi bien sur ces plateformes logicielles, d'applications logicielles, que ce soit sur les cartes, la navigation GPS, dans son agenda, évidemment dans ses courriers électroniques. Je ne sais pas si vous êtes un utilisateur de Gmail, Frédéric, mais aujourd'hui, Google vous propose carrément de répondre à votre place à certains messages. C'est un petit peu tout ça que Google avait envie d'adresser,
de développer.
Pas,
oui.
De développer. Il n'y a pas forcément de valeur légale, en tout cas derrière tout ce qu'il n'y a pas de voilà, ce qui primera à la fin, c'est la législation, la réglementation. Mais clairement, on connaît des groupes comme Google, une volonté d'influencer, de peser dans ces débats qui ne font que s'ouvrir aujourd'hui.
Christian Paul.
Oui, ce comité éthique a explosé en vol très précocement, et à la fois parce que sa composition était évidemment extrêmement discutable.
Notamment le président du think tank Heritage Foundation,
voilà,
ultra-conservateur.
Think tank conservateur, et puis un producteur de drones, et on sait que
l'intelligence militaire.
Voilà, l'intelligence artificielle est évidemment très utilisée déjà ou explorée par les industries de défense, et notamment il y avait déjà eu d'ailleurs au sein de Google, il y a un an ou deux, une première rébellion interne, justement pour l'utilisation des drones plus généralement de ce qu'on appelle aujourd'hui les robots tueurs, c'est-à-dire des instruments qui peuvent tuer sur des champs de bataille sans qu'il y ait véritablement d'intervention humaine, l'intelligence artificielle se substituant à la fois pour le repérage, mais aussi pour déclencher l'acte de tuer, sans qu'il y ait un humain dans la boucle. Et donc, il y a déjà eu au sein de Google ce type de rébellion, de fronde, pourrait-on dire. Il y a eu aussi là, pour la composition de ce comité, une pétition à l'intérieur.
Donc ça veut dire 1800
que,
employés
ça veut dire
de
que
Google.
Les lanceurs signe. D'alerte, en quelque sorte, sont aussi, et c'est une bonne chose, au sein même de ces grandes entreprises, pour qui l'intelligence artificielle, c'est pas seulement un défi technologique. Et là, les spécialistes nous disent qu'il n'y a pas de limite à l'avenir. Les techniques vont évoluer et aller très loin. Mais ce sont dès maintenant, évidemment, des parts de marché, des enjeux économiques considérables. Et il est plus que temps, aux États-Unis, en Europe, en France, à l'échelle de la planète, de créer un cadre de règles. Et la question que posait effectivement Google, qui a voulu se doter d'une instance, au fond, d'autorégulation, même si cette instance faisait appel à des membres externes, la question qui nous est posée, c'est est-ce que l'autorégulation à l'initiative des entreprises, ça suffit ? Ça peut être une bonne chose, mais est-ce suffisant ? Ou faut-il aussi que la puissance publique s'empare de ces questions, avec le risque de mal les comprendre, de mal les saisir, d'arriver trop tôt, trop tard. C'est une question qui est permanente depuis les débuts de la révolution numérique. On ne sait jamais comment réguler, mais ce dont on peut être sûr et être sûr ensemble, c'est qu'il faut le faire.
Mais revenons une seconde sur ce conseil, au fond, conseil éthique, on l'appelle comme on veut, comité éthique. Il était en l'occurrence bénévole, il devait se rencontrer 4 fois par an. De toute façon, ils n'avaient aucun pouvoir. Donc, est-ce que des comités de ce type, que ce soit Google ou autre, ont un quelconque intérêt, Christian Paul ?
Je pense qu'il n'y a pas de raison de les interdire par principe. Non, ça n'aurait pas de sens. Et encore une fois, la réflexion éthique des entreprises est nécessaire. Chose, hein. La question, c'est de savoir comment on le fait. Est-ce qu'on le fait avec des personnalités réellement indépendantes ou en tout cas qui permettent d'assurer la pluralité des points de vue ? Ne remplaçons pas le droit par l'éthique. Ne remplaçons pas l'autorégulation interne des entreprises par des tentatives, on le voit bien là, qui étaient quand même très cosmétique. Je pense que Google, qui a des enjeux considérables dans ce domaine, qui est à la pointe des recherches, pas seulement dans le domaine militaire, bien sûr, mais dans le domaine de toutes les formes de reconnaissance, dans le domaine des véhicules autonomes, qui va s'intéresser évidemment à la médecine prédictive. Google a des enjeux considérables et on ne peut pas penser un instant qu'un comité de cette nature-là, même en interne, est suffisant. Je pense qu'il faut être beaucoup plus ambitieux si on a les ambitions que Google a dans le domaine de l'intelligence artificielle.
Gilles Fontaine, quelles sont ses ambitions, justement, de Google l'avenir en matière d'intelligence artificielle ?
Elles sont extrêmement importantes, mais Google subit lui-même la pression de géants chinois qui, là-dessus, n'ont absolument, eux, aucune contrainte, aucune limite.
L'un des grands enjeux... Rappelons quand même que la Chine va investir 150 milliards dans l'intelligence artificielle d'ici 2030.
Et là, pour le coup, on sait que les salariés, les employés de ces entreprises chinoises sont très disciplinées et ne vont pas signer des pétitions en se posant des questions sur la portée de leurs inventions et de leurs découvertes. L'un des enjeux, par exemple, extrêmement important pour Google, mais pour d'autres comme Apple ou Facebook, c'est par exemple la reconnaissance faciale, on n'a pas encore commencé réellement à discuter de ces enjeux-là en Europe, mais il va falloir que...
Elle existe déjà sur les téléphones portables.
Ce sont d'ailleurs de très très bonnes technologies chinoises, puisqu'aujourd'hui, les téléphones chinois vous reconnaissent plus facilement
facialement
que l'empreinte digitale. Là-dessus, les Chinois ont pris énormément d'avance parce qu'ils ont beaucoup plus de données, beaucoup plus de liberté que les grands groupes occidentaux et notamment américains. Aujourd'hui, on parle plus de simplement de reconnaissance faciale, mais on vous reconnaît aussi à votre démarche dans la rue. Donc, vous avez beau vous cacher le visage, changer de voix ou autre, on vous reconnaît uniquement à la façon dont vous marchez. Enfin, je pense que Google là-dessus essaye aussi on peut pas les blâmer pour ça, de prendre date.
D'innover, et
c'est d'ailleurs la façon de faire de tous ces grands groupes de l'internet américain, c'est justement de faire bouger les cases, de faire bouger les lignes, comme on dit, d'être toujours un petit peu sur le fil du rasoir et de provoquer, de voir jusqu'où on peut aller, de provoquer un peu le champ politique pour que des décisions soient prises.
Alors justement, sur le champ politique, oui, Christian Paul, peut-être... quel cadre légal peut-on imaginer pour l'intelligence artificielle?
Je voulais simplement rajouter que Google n'en était pas à son coup d'essai, puisqu'en 2018, il avait déjà édicté une charte d'éthique pour l'intelligence artificielle, où on retrouvait beaucoup de bons principes. Mais pour faire le lien avec votre question, Frédéric, je voudrais dire que, quelles que soient les chartes dont se dotent les entreprises, quelles que soient les comités d'éthique ou de bonnes pratiques qu'ils constituent en leur sein, c'est loin d'être suffisant. On peut s'accorder sur le fait que c'est une pratique nécessaire, mais c'est terriblement insuffisant au regard des enjeux économiques de ce secteur à l'échelle de la planète, en raison du fait que les risques sont considérables. On a évoqué évidemment les questions d'industrie militaire, mais on pourrait parler de la médecine, on pourrait parler de tous les usages qui vont pénétrer progressivement dans la vie quotidienne.
La voiture autonome, par exemple,
à chaque fois,
les accidents.
On voit qu'il y a, un risque majeur qui est la perte de responsabilité dans la prise de décision. C'est pour ça qu'il faut des règles. Demain, s'il y a de la reconnaissance faciale, s'il y a de la médecine prédictive, si je ne dis pas que j'approuve d'ailleurs ces tendances, mais s'il y a par exemple des allocations sociales qui sont distribuées non plus par des travailleurs sociaux mais par l'intelligence artificielle, s'il y a des décisions de justice qui sont prises, y compris de façon préventive, par des machines et non pas par des juges, il est clair que il faudra être capable capable de placer très tôt des limites. Donc il y a urgence à le faire. Mmh. Et ce ne sont pas les entreprises seules qui peuvent le faire. C'est donc vers d'autres acteurs du débat public et de l'action publique qu'il faut se tourner. Il y a des autorités administratives indépendantes. Il y a aux États-Unis des régulateurs et des entités, notamment l'une qui s'appelle Partenaire de l'intelligence artificielle, où il y a à la fois les entreprises, mais les grandes ONG du secteur, et notamment l'Electronic Frontier Foundation, qui est la première ONG dans le monde numérique qui a commencé à attirer l'attention il y a plus de 20 ans sur un certain nombre de dérives. Donc du coup, ces entités-là sont absolument nécessaires. Et le président de la République, en France d'ailleurs, avait, au moment de la sortie du rapport Villani, dit très clairement qu'il fallait une expertise mondiale indépendante. Et sur ce point-là, je suis d'accord avec Emmanuel Macron. Mais encore une fois, pour terminer, je pense que ce sont des questions dont les pouvoirs publics à l'échelle de l'Europe et à l'échelle nationale doivent se saisir. Ils ne vont pas, les pouvoirs publics européens, régenter l'ensemble de la planète sur ces points. Mais on a vu avec le règlement général sur la protection des données qu'on pouvait de façon très claire montrer que l'Europe, quand elle agit ensemble, ce qu'elle ne fait pas sur la fiscalité, n'est pas forcément impuissante pour la protection des liberté.
Il y a, à mon avis, plusieurs en fait niveaux de réflexion. L'un qui peut paraître un peu trivial. On parlait de voitures autonomes, de véhicules autonomes. Effectivement, c'est le fameux cas où il faudra apprendre à la voiture, en cas de choix drastique, à écraser plutôt le chien, le petit enfant ou la personne âgée qui est sur le trottoir.
Ou le conducteur.
Ou tuer le conducteur qui va s'écraser contre un mur. Bon. Après, il y a d'autres choses qui sont extrêmement importantes. L'une des raisons pour lesquelles les employés de Google ont réagi contre la présidente de la Heritage Foundation, c'est qu'elle a eu des propos assez durs contre les transgenres. On peut même aller un peu plus loin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, considérons que, notamment dans la Silicon Valley, mais partout dans le monde, la haute technologie, aujourd'hui, c'est à plus de 85% des hommes qui la font. Et c'est des hommes qui conçoivent ces algorithmes, et c'est effectivement des hommes qui seront à l'origine de ces intelligences artificielles qu'on va fonder. Donc, est-ce qu'on ne sera pas un peu aussi biaisé dans l'usage de ces intelligences artificielles dans le passé qui auront été conçues essentiellement par des hommes?
Pour terminer, une question un petit peu à l'envers, contre-intuitive à nouveau, j'aime bien ce mot. Est-ce qu'on ne voit pas à travers tout ce débat sur l'éthique, les données, les régulations, le problème de cette nécessité de contrôler au fond ces innovations dans l'intelligence artificielle, qui sont débats qui sont si fréquents en Europe? Est-ce qu'au fond on n'est pas en Europe les premiers à parler d'éthique et à vouloir réguler ces industries, mais qui nous échappent puisqu'elles sont faites aux États-Unis, comme si au fond nous on voulait réguler, mais ça sera pas nous qui feront les logiciels et les softwares de ces industries dans les automobiles? Est-ce que c'est pas un peu un problème européen que de toujours penser à réguler, poser des barrières éthiques et à vouloir se préoccuper de ces questions de données, par exemple, alors que les Américains, eux, ils avancent et peut-être ils dirigeront seuls avec les Chinois ce secteur bien loin devant l'Europe?
Il y a deux étages à la réflexion dans cette affaire. Il y a évidemment la domination économique des États-Unis et maintenant de la Chine, et là, ça relève évidemment d'une bataille économique qui est loin d'être achevée, dont l'Europe a perdu les premières manches. Et la deuxième chose, c'est une bataille de valeurs et une bataille aussi, encore une fois, face à des enjeux et des risques considérables. Et là, on le voit bien, par exemple, dans le domaine de la lutte contre le réchauffement climatique, c'est vrai, il y a quelques années, on aurait pensé que la Chine allait s'exonérer totalement de lutter contre le réchauffement climatique, et l'idée a fait son chemin, y compris en Chine. Aux États-Unis, on le sait, pendant la présidence Trump, on va régresser beaucoup, mais
il y a des contre-pouvoirs,
c'est une bataille de moyen terme. Donc là aussi, je pense que pour que l'intelligence artificielle soit une nouvelle marche de progrès pour l'humanité.
Une nouvelle frontière.
Et non, une nouvelle frontière, si on le veut, pour l'intelligence humaine et non pas un cauchemar numérique supplémentaire, eh bien, il y a des formidables batailles à mener, et je pense qu'il est très urgent de les préparer, ces batailles.
Merci infiniment à tous les deux. On en reste là pour ce soir. Christian Paul, ancien ministre, Gilles Fontaine, journaliste à Challenge. Dans un instant, vous retrouvez Carbone 14, le magazine de l'archéologie de Vincent Charpentier sur France Culture. Et en attendant, bonne soirée à l'écoute de notre chaîne et bonne fin de week-end.